Merci. Cette affaire-là, est-ce que ça bouge? Parce que je n'ai pas de place pour mon affaire. Stéphane, comment tu as utilisé ça la première fois? Ok. Oh, on va prendre un déjà qui est prêt. Parce que je ne veux pas. Il y a le groupe musical aussi qui a ses affaires. Ils ont fini eux autres? Ok. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, on peut tous aller bien. Sans la grâce de Dieu, rien n'est possible. Alors, ce matin, j'ai le privilège d'apporter un enseignement sur Néhémie. Faire l'introduction du livre de Néhémie. Mais je peux vous poser la question. Quand vous entendez parler de Néhémie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? À quoi est-ce que vous pensez? Construction. Reconstruction. Quoi d'autre? Leadership. Obstacle. Bravo. Merci. Les ennemis de Dieu. Et il y a tous ces sujets-là, ces panoplies de sujets-là qui nous viennent à l'esprit. Quand nous pensons à l'œuvre de Dieu. Quand nous pensons au livre de Néhémie. Oui, quand nous pensons au livre de Néhémie, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de séminaires et de conférences. Et d'écrits sont faits sur le leadership à partir du livre de Néhémie. Ou bien, le livre de Néhémie est cité comme un livre de référence dans le leadership. Partout. C'est une bonne chose. Je ne suis pas contre ça, c'est une très bonne chose. Mais le livre de Néhémie n'est pas seulement un livre pour le leadership ou sur le leadership. Le livre de Néhémie peut nous enseigner plusieurs autres choses que le leadership. Amen. Par exemple, le livre de Néhémie nous enseigne quelle attitude avoir quand nous apprenons une mauvaise nouvelle. L'attitude à adopter quand on apprend une mauvaise nouvelle. Quand vous avez appris que l'assemblée du Cap a pris feu, votre attitude était comment? Quand vous avez appris que le lac Mégantic a brûlé, dépendamment de la proximité que vous avez avec la situation qui se passe, comment vous vous êtes senti? Quand vous passez tous les jours devant les ruines de l'assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, qu'est-ce que vous sentez en vous? Qu'est-ce que nous vivons? Et qu'est-ce que nous faisons? Le livre de Néhémie, non seulement nous enseigne sur comment se comporter face à une mauvaise nouvelle, mais aussi le livre de Néhémie nous enseigne comment faire face à l'opposition externe, interne, au quotidien. L'opposition n'est pas seulement les frères et sœurs que tu as autour de toi qui ne disent pas ou qui ne te flattent pas toujours dans le poil du sens, dans le sens de tes poils. C'est bon, hein? C'est bon. Ah, ils ne vous flattent pas dans le sens du poil. Alors, on pense que ça, c'est l'opposition. Ils ne nous disent pas les paroles qu'on veut entendre. Ça nous frustre, ça nous dérange, ça peut arriver. Mais la vraie opposition souvent qu'on a, c'est les batailles qu'on a à l'intérieur de notre vie chrétienne, dans notre cœur, par rapport à vivre selon la loi et la parole de Dieu. Le combat spirituel à l'intérieur. Le péché qui s'objecte à la sanctification que Dieu attend du croyant. Ça, c'est aussi une bataille, une forme d'opposition. Ce n'est pas seulement dans le couple ou quand madame veut que monsieur vienne au lit à 21h, monsieur veut aller au lit à 3h du matin. Ce n'est pas seulement ce sens d'opposition-là. Alors, le livre de Néhémie nous enseigne plus que le leadership. C'est ce que je voulais dire ce matin. Donc, l'introduction que nous allons avoir, je vais le faire ce matin. Et plusieurs autres personnes, enseignants, passeront ici pour nous entretenir sur le livre de Néhémie. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans Néhémie chapitre 1, verset 4. Et puis, après, on va partir dans le chapitre 2, verset 17. On va le lire 17 à 20. Si on l'a, on va le lire. Je vais commencer. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés à la captivité, de la captivité au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés à Jérusalem dans la captivité. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Amen. Ça, c'est ce que Néhémie nous dit ici. On va aller au chapitre 2, versets 17 à 20. Le contexte ici, c'est que Néhémie est parti à Jérusalem pour aller bâtir, il a eu la permission pour aller bâtir les murailles de Jérusalem. Alors, donc, il commence au verset 17. Si je commence au verset 17, il dit... Je leur dis, c'est-à-dire que Néhémie, après avoir fait l'inspection de la ville tout autour, dans la soirée, alors après il vient trouver ses frères et il leur parle. Et ce qu'il dit à ses frères, c'est ceci. Il dit, après je leur dis, hey, j'ai perdu mon passage. Après je leur dis, alors, je leur dis, alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette résolution. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Ici, est-ce que je n'ai pas la manette pour vous faire passer? C'est quelqu'un qui l'utilise là-bas derrière. Hein? Tu l'as mis dans mes poches. Ben, tu es fort, toi. Je ne t'ai pas vu. Quand ça? En plus, dans mon pantalon. Mais tu es fort, toi. Mais toi, tu es fort, hein? Billy, heureusement que je n'ai pas de millions dans ma poche, ce serait parti. Tu n'es pas un voleur, donc je comprends, c'est bon. Voilà comment je vais commencer ce matin. On va regarder le plan d'action que je vais donner, on va regarder l'historique. Le contexte historique, l'auteur, le thème du livre, la rédaction, la date de rédaction. Et pourquoi nous étudions sur le livre de Néhémie et le plan du livre, l'application et conclusion. Ça va? Ça peut aller? Ok. Le contexte. Nous voyons ici que nous sommes en Israël. Avant la mort de Salomon, le royaume était uni. Israël et toutes ses tribus étaient un seul peuple. Et Salomon, dans son vécu, a posé des gestes qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et cela a poussé Dieu à dire à Salomon, si ce n'était pas à cause de ton père David, je couperais ta royauté à son milieu. Mais quand tu vas mourir en paix, mais après toi, celui qui va venir après toi, le royaume sera divisé. Et c'est ce qui est arrivé. Le royaume fut divisé après la mort de Salomon. Alors, le royaume fut divisé en deux. Il y avait le royaume du nord, qui était composé de 10 tribus, et le royaume du sud, qui était composé de 2 tribus, de Juda et de Benjamin. Alors, vous voyez, toute la partie verte, que je peux dire, si je peux m'expliquer comme ça. Ah, l'affaire là, ça ne marche pas. Ah, voilà. Tout ici, c'est le sud, Juda et Benjamin sont là, et tout le reste, c'était les 10 tribus, tribus du nord. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple-là, entre eux-mêmes, pendant plus de 80 ans, vont se battre entre eux-mêmes. Il va y avoir la guerre entre les enfants de Dieu à l'intérieur du pays promis, le pays que Dieu a appelé Israël depuis l'Égypte pour les amener, pour les installer, le pays que Dieu appelle là où coule le lait et le miel, le pays du repos, le pays où il va y avoir la prospérité, le pays de la stabilité, le pays où Israël va être une nation qui va influencer les autres peuples. Voilà que les enfants de Dieu, dans ce pays-là, au lieu de marcher dans la voie et dans le plan de Dieu, se sont divisés à l'intérieur et ont commencé à se battre. Et plus tard, pendant ce temps, Israël a continué de vivre dans le péché. Ils ne se sont pas souciés de Dieu, ni du projet de Dieu, ni de l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va permettre que Israël, la tribu du Nord, soit emportée, amenée en déportation par les Assyriens. Mais avant cela, Dieu avait fait une alliance avec Israël en sortant de l'Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit à Israël, avec Moïse, dans Deutéronome 28, le livre, le chapitre qui parle des bénédictions et des... Ah, pour ceux qui lisent la Bible, ils savent ça. Hein? Je vous assure que quand je suis devenu chrétien, sorti de l'islam, devenu chrétien, le passage, quand j'ai lu, le jour que j'ai lu ce texte-là, je vous dis que j'ai passé des jours sans dormir. Deutéronome 28. Lisez Deutéronome 28, ceux qui ne l'ont jamais lu. Ça va vous parler. Et Dieu fait une alliance avec Israël. Malédiction et bénédiction. La condition était que Israël, quand vous allez être dans ce pays-là, quand vous allez être obéissant, quand vous allez adorer l'Éternel, si Dieu vous servez l'Éternel seul comme il faut, alors vous allez avoir la bénédiction. Et la malédiction, si vous désobéissez et que vous allez auprès de d'autres dieux et que vous violez l'alliance que l'Éternel vous a établie, vous a donnée, alors vous allez être maudit. Ça voudrait dire quoi? Dans cette malédiction-là, il y avait aussi la déportation dedans et l'exil. Nous pouvons voir cela dans... Attends, je suis parti trop vite. Nous pouvons voir cela dans Deutéronome 28. Quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît, un volontaire? Deutéronome 28, on va le regarder à partir du verset... Attends. Je l'ai ici. Excusez-moi une minute là. De verset 36 à 37. Est-ce que quelqu'un l'a eu? Oui, vous pouvez le lire pour nous, s'il vous plaît. Amen. Et c'est ce que Dieu avait dit à Israël. Il dit que l'Éternel te mènera. Si tu violes l'alliance, il va t'amener dans des endroits que tu n'as pas connus, ni tes pères. Et tu vas adorer d'autres dieux, des pierres et du bois. Et tu seras un sujet de sarcasme et de raillerie. Et il dit cela à Israël, il le prévient. Et je vous assure que c'est ce qui arrive plus tard. comme Dieu l'avait déjà dit. Israël, n'ayant pas obéi à Dieu, va se ramasser dans la déportation. Alors, donc, quand on vient ici, nous voyons qu'en 722, Israël va être déporté par les Assyriens. Envahi par les Assyriens, ils s'en vont en déportation. Le royaume du Nord est totalement pris en siège et ils n'ont plus de possibilité. Ils sont loin du pays promis, ils sont loin de leur Dieu, ils sont loin de la ville sainte de Dieu. Et plusieurs années plus tard, le royaume du Sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin, n'ont pas appris de la correction que Dieu a infligée au royaume du Nord. Et aussi, ils sont entêtés dans leur péché, alors ils vont être déportés aussi à leur tour à Babylone. Ils sont là-bas, malheureux, maltraités, ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait nécessairement, même si évidemment d'autres prospéraient dans certaines conditions, d'autres n'avaient pas la paix, ils étaient loin de leur pays. Et c'est dans ce contexte-là que les Babyloniens et les Assyriens vont être dominés plus tard par l'Empire perse. L'Empire perse va avoir la puissance, il va dominer ces deux nations-là et ils vont prendre tout le monde en siège et eux, ils vont régner. Et à partir de ce moment-là, la parole que Dieu avait déjà donnée dans Esdras chapitre 1, et Dieu va parler à un roi païen. Il va appeler un roi païen pour lui dire de préparer le retour de son peuple de l'exil pour entrer à Israël et bâtir la maison de Dieu et la ville de Dieu. Jusque-là, ça va? Est-ce qu'on me suit? Ok. Alors, quand Babylone avait pris Jérusalem, ils étaient là. Et après, nous voyons, quand les Assyriens ont pris le pouvoir, voilà tout ce qu'ils gouvernaient, tout ce qui est en rose ou en rouge, là, je ne sais pas comment vous voyez là-bas. Là. Alors, et toute cette partie-là était l'Empire perse qui dominait partout. Ils ont régné. Et là, Dieu va dire à ce roi-là de libérer son peuple. Et on trouve cela dans Esdras chapitre 1. Un volontaire peut le lire pour nous, s'il vous plaît? Non, pas, je vais le lire. La première année, je vais le lire, verset 1. Il dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Vous voyez? Et là, Cyrus va demander à mettre sur place une politique de retour à la maison. Les exilés vont revenir chez eux. Mais ça ne va pas être facile parce qu'il va falloir demander aux gens qui veulent venir volontairement, qui vont s'impliquer pour aller. Même il est arrivé qu'ils ont dû faire des tirs au sort pour que certains puissent partir de Babylone jusqu'à Israël pour aller s'installer. Et la distance entre Suse et Jérusalem était de 750 kilomètres. Et c'est ce que Néhémie va faire deux fois à leur retour. Ça fait 1500 kilomètres sans voiture à l'époque. Vous savez, et ça, ce n'est pas facile. Ça va prendre des mois. Jusqu'à date, ça va? On me suit? Ok. Bon. Le retour d'Israël va se faire à partir de 538. Les exilés reviennent. Ça va se faire en trois étapes. La première partie qu'on va appeler une première vague ou bien un premier groupe, un premier retour, alors va se faire avec Zorobabel. Zorobabel va venir avec 50 000 personnes, 50 000 juifs qui vont le suivre pour rentrer à Israël. Et qu'est-ce qui va se passer quand ces 50 000 personnes vont rentrer à Israël? C'était pour bâtir le temple. Parce que Dieu a dit à Cyrus quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit à Cyrus quand j'ai parlé tantôt? Il disait de libérer son peuple pour aller bâtir sa maison. Alors le peuple s'en vient, ils arrivent en Israël et il y a des obstacles. Ils sont confrontés aux Samaritains et à d'autres peuples et à d'autres situations difficiles à l'interne aussi, parmi eux-mêmes. Alors ainsi, Israël, opposé face à l'opposition, va être découragé probablement et ils vont oublier l'œuvre de Dieu, ils vont abandonner l'œuvre de Dieu, chacun va se tourner vers lui-même et commencer à bâtir sa propre maison, commencer à bâtir sa propre tour de Babel, commencer à bâtir son propre royaume, plutôt que de bâtir le royaume de Dieu, plutôt que de faire l'œuvre pour laquelle Dieu les a libérés de l'exil pour les amener à Jérusalem. Alors, le temple, quand ils vont commencer les travaux, ça va être arrêté à plusieurs reprises. Et finalement, ils vont finir par pouvoir avancer. Et là, en 458 avant Jésus-Christ, et la deuxième vague va venir par qui? Par Esdras. Esdras rentre dans le pays avec 3000 hommes. 3000 hommes pour venir aider. Quand Esdras arrive dans le pays, 80 ans plus tard, il arrive dans le pays, il trouve que rien n'a été fait. Que les choses n'ont pas été faites comme il fallait. Esdras est découragé. Et qu'est-ce qui se passe? Esdras trouve une situation délabrée, déplorable devant lui. On peut le voir aussi cela dans d'autres passages de l'Écriture ici. Qu'est-ce que Esdras va rencontrer? Dans Esdras chapitre 9, versets 1 à 4. Esdras chapitre 9, versets 1 à 4. Qu'est-ce qui se passe? Il est dit ici, « Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi. » C'est-à-dire que Esdras, quand il est arrivé avec les gens, ils ont travaillé ensemble, ils ont rendu tous les ustensiles que le roi avait donnés, ils ont tout remis. Alors donc, Esdras a fini de parler, et là maintenant, il dit que les chefs s'approchent de lui. Et on lui parle en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays. » Et ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, des Éthiens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Ammonites et des Moabites, des Éphésiens, des Égyptiens et des Amoréens. Pourquoi? Le problème c'est quoi? On dit que ceux qui sont les leaders dans le pays, ceux qui sont supposés conduire le peuple, ceux qui sont supposés être des hommes modèles et qui devaient appliquer la parole de Dieu, ne l'ont pas fait. Eux, ils ont décidé de vivre à la mode des païens. Ils ont décidé d'adopter la mode des autres. Ils ont décidé d'être, en bon québécois comme on le dit, ils ont décidé d'être comment, on dit? Hein? Oui, je vous écoute, André, vous n'êtes pas là, hein? Vous ne me suivez pas. Je vous fais dormir? Ils ont cherché d'être wise. Wise. Et why. Wise. C'est comme ça on dit? Ok. Ou c'est de l'anglais ça? Ok. Alors, donc, ils ont cherché à s'accommoder aux autres. Ils ont cherché à vivre comme les autres. Et dans Romains chapitre 12, verset 2, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Dans Romains 12, 2, il dit, « Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part comme un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mais Israël n'a pas fait cela. Israël s'est conformé aux autres nations. Israël a fait ce que les autres nations faisait. Il les a imités. Tout ce que Dieu avait prôné de ne pas faire, Israël a tout fait. Alors, Néhémie et Esdras étaient découragés. Esdras va déchirer, quand on lit le texte, Esdras va déchirer son manteau, il va s'arracher ses cheveux, sa barbe, tout ça, pour montrer la désolation et la douleur et la déception. Contrairement à Néhémie, qui rentrent dans la prière d'une certaine façon, les deux personnes sont des personnes spirituelles, mais qui manifestent leur désapprobation de la situation d'Israël différemment. Et en 446 à 445, le retour des exilés va se faire en ce moment par Néhémie. La troisième vague va rentrer dans le pays par Néhémie. Et Néhémie va venir. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans le premier texte qu'on vient de lire, qu'on a lu dans Néhémie chapitre 1, Néhémie va apprendre que ses frères sont arrivés de Jérusalem. Alors, comme un bon citoyen, avec un sentiment de patriotisme en lui, et avec le souci de savoir ce qui se passe dans ce pays, Néhémie va aller chercher à s'informer. Il demande qu'est-ce qui se passe. Et on lui donne l'information. C'est catastrophique. Néhémie se met à pleurer. Néhémie pleure. Il pleure comme s'il y avait un deuil chez lui. Il pleure comme s'il avait perdu quelqu'un de plus important dans sa vie. Il pleure comme s'il avait perdu sa femme ou son enfant. Il porte le deuil. Découragé, totalement. Il dit, je fus plusieurs jours dans le deuil, dans la prière et dans le jeûne. Plusieurs jours. Ma question ce matin, quand vous avez appris que le cap de la Madeleine a brûlé, avez-vous passé combien de jours dans le jeûne et la prière? Avons-nous passé combien de jours dans le jeûne et la prière? Quand nous avons appris la souffrance de nos frères et sœurs qui sont proches de nous dans l'assemblée, Néhémie a réagi parce que c'était son peuple. Néhémie a réagi parce que c'était sa nation. Néhémie a réagi parce qu'il était sensible au projet de Dieu. Néhémie a réagi parce qu'il avait le fardeau de Dieu dans son cœur. Néhémie pleure. Combien de fois avons-nous versé les larmes sur l'Assemblée chrétienne du Cap? Les situations que nous avons vécues récemment, combien d'entre nous a versé beaucoup d'âmes, beaucoup de larmes? Nous avons pleuré certains. Je ne suis pas en train de dire que d'autres ne l'ont pas fait, qu'ils ont un cœur insensible. Non, nous avons souffert d'une certaine façon ensemble. Nous avons pleuré ensemble. Nous avons prié ensemble. D'autres ont demandé de jeûner ensemble. Et c'est ce que tout enfant de Dieu, toute personne consciente de la présence de Dieu, du fardeau de Dieu, qui a le souci de l'œuvre de Dieu, doit se comporter. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs. Quand j'apprends que mon frère et ma sœur a du cancer en lui, souffre d'une maladie quelconque, est-ce que je suis désolé? Est-ce que je suis troublé dans ma conscience au point que je me prive de boire et de manger et que je rentre dans le jeûne et la prière en faveur de ce frère, intercéder? Frères et sœurs, une église qui ne prie pas, un chrétien qui n'a pas une vie de prière, ne pourra pas faire des exploits, ne pourra pas avancer. Nous, c'est des choses que nous savons, mais très peu nous le faisons. Néhémie vient avec le peuple. Maintenant, nous allons voir qui a écrit le livre de Néhémie. Si nous regardons selon ce qui est écrit, le livre de Néhémie est reconnu comme lui-même étant l'auteur. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que je n'ai pas assez de temps. Est-ce que cette montre est à l'heure? Il me dit qu'il est 1h, 14h12. Hein? Midi est passé? Mais là, il ne parle pas de 11h là. Je pense que la montre n'est pas à l'heure ici là. Ok. Israël et Néhémie est le livre qui est connu vraiment. Comme Néhémie est connu comme l'auteur de son livre. Dans le passé, on disait que Néhémie et Esdras et quelques livres étaient réunis ensemble dans la tradition juive. Et plus tard, ça a été séparé. Mais Néhémie est l'auteur vraiment de son livre. Et il parle à la première personne. Et nous voyons tout ce qui a été dit. C'est Néhémie qui l'a fait. Il n'y a pas de doute sur ça. Néhémie est l'auteur. Mais qui était Néhémie? Néhémie se présente lui-même dans les Écritures comme étant le fils d'Acalia. Il ne se présente pas autrement que ça. Il dit, je suis Acalia, le fils d'Acalia. Acalia, c'est qui? La Bible ne parle pas beaucoup de lui. Tout ce que nous savons qu'Acalia est un juif, probablement de Juda, qui a été transporté en déportation, et probablement que Néhémie est né dans la déportation, dans l'exil. Et c'est tout ce que nous savons de son père. On ne parle pas de sa famille, on ne parle pas d'autre chose de Néhémie. Néhémie est d'origine juive, originaire, c'est ça j'ai dit? D'origine? C'est mal écrit. Ok, excusez-moi. Toutes les fautes qui sont dedans, c'est parce que ma femme n'a pas corrigé. C'est Adama qui a écrit là. Je vous le dis d'avance là. Je vis avec une enseignante, elle ne me fait pas des cadeaux, souvent dans ses écrits là. Mais elle le corrige habituellement, elle n'a pas eu le temps de corriger mes fautes, que je vous le dise. Ok. Néhémie est un juif originaire de la tribu de Juda. On peut trouver cela, des références sont là. On va avancer. Il est probablement un descendant de la famille de David, selon certains commentateurs. Et par rapport aussi à certains textes bibliques qu'on regarde, quand on voit le nom de son père qui apparaît aussi là avec Zorobabel. Alors, on dit que Néhémie, il dit qu'il était aussi échanson. Qu'est-ce qu'un échanson? C'est quoi un échanson pour vous? Celui qui verse du vin, c'est celui qui fait de igloo-igloo. Hein, non, c'est quelqu'un qui goûtait le vin. Ok, c'est bien. Voilà ce qu'on nous dit. Un échanson était un officier qui versait le vin dans la coupe et qui goûtait avant de l'offrir au roi. Et cette fonction était très importante et requérait de la plus grande intégrité. Néhémie n'occupait pas n'importe quel poste. Dans le temps des rois, à cette époque-là, on pouvait assassiner le roi facilement, on pouvait empoisonner le roi facilement. Et Néhémie occupait un poste très important. Et ça nécessitait une personne de confiance, quelqu'un à qui on a confiance, une personne qui a une intégrité très haute. Une intégrité très haute parce qu'on pouvait le soudoyer, lui donner des pots de vin pour mettre un peu de poison pour tuer le roi. Oui, des pots de vin. C'est vrai parce qu'il sert de vin, mais je parle dans un langage québécois, des pots de vin en dessous pour pouvoir servir le roi. Ou des enveloppes brunes, si on peut dire comme ça dans notre langage, pour pouvoir empoisonner le roi. Donc Néhémie était un homme de confiance. Néhémie était un homme qui craignait Dieu. Néhémie était quelqu'un qui aimait vraiment Dieu. Il aimait son travail. Et jamais on a vu dans les Écritures où le roi fait un reproche, une reproche à Néhémie par rapport à son travail. Sans qu'il ne soit parfait, mais c'était quelqu'un qui était conscient et professionnel dans son travail. Il était un homme confident du roi. Certains même disent qu'il était premier ministre à cause du travail qu'il faisait. Gouverneur de Juda. Ok, on avance. Le thème de Néhémie. Le livre de Néhémie parle beaucoup de choses. Il y a beaucoup de thèmes théologiques dans le livre de Néhémie. Mais tels que, on peut dire, la prière, l'obéissance et l'opposition, la persévérance et la consécration. Et il y en a, on pourrait en mettre beaucoup. Mais le thème principal de Néhémie est la reconstruction des murailles de Jérusalem. Néhémie, quand il va lui demander la permission au roi pour partir, Néhémie ne dit pas, je m'en vais pour aller bâtir l'église. Il dit, comment est-ce que je peux avoir un visage et comment mon visage ne peut pas être abattu quand la ville où se trouve le sépulcre de mes pères sont en ruine, quand Jérusalem, les murailles sont en ruine et que ses portes sont consumées par le feu. Néhémie se soucie de sa nation, la protection pour le peuple, la sécurité que ce mur procurait à tout le peuple, la restauration et la sécurité économique aussi, tout ce que ça pouvait engendrer et spirituel pour ce pays et pour sa nation. Alors Néhémie, son thème vraiment, c'est la reconstruction des murailles. Alors donc, peuple de Dieu, nous devons nous lever pour bâtir les murailles de Jérusalem. Ça, c'est les murailles de Chine. Hein? Je n'ai pas trouvé celui de Jérusalem, j'ai pris celui de Chine. Ça peut aller? C'est qui est sûr, on est dans l'idée. Ça ne peut pas aller parce que ce n'était pas aussi long comme ça. Alors, la date de la rédaction, c'est à 430, selon certains commentateurs. Et on croit que c'est ce qui a été fait quand Néhémie était déjà venu dans son deuxième retour à Jérusalem. Pourquoi nous étudions le livre de Néhémie? Pourquoi? La raison est que nous voulons bâtir l'œuvre de Dieu ici, au Cap de la Madeleine. je vais parler en bon québécois, ici. C'est ça on dit? Ici. Nous voulons bâtir l'œuvre de Dieu au cap de la Madeleine. C'est pourquoi nous voulons. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est mal écrit? Au cap de la Madeleine, parce que nous voulons bâtir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on veut enseigner le livre de Néhémie. Parce que nous voulons relever notre bâtiment qui est en ruine sur la rue Lupien au 225. Nous voudrons relever ces murailles. Chaque jour, quand vous passez, ces ruines-là doivent nous interpeller. Ça ne doit pas rester comme ça. Parce que nous voulons relever, restaurer la vie et le témoignage de tous nos frères et sœurs qui sont présentement en ruine. Il y a des témoignages, il y a nos frères et sœurs qui sont présentement en ruine. Nous devons les rebâtir, ça c'est le côté spirituel. On doit rebâtir leur témoignage, on doit rebâtir leur vie, on doit restaurer toute la panoplie de crédibilité qu'il faut avoir dans la personne et à chacun de nous. Parce que nous voulons faire ça. Pourquoi? Pourquoi? On veut faire tout ça. On veut faire tout ça parce qu'ils font partie de l'œuvre de Dieu. Pourquoi on veut enseigner le livre de Néhémie? Parce que nous avons le souci de l'œuvre de Dieu et du peuple de Dieu. Le livre de Néhémie est le livre qui répond à notre besoin. Amen. Est-ce que c'est le livre qui répond à notre besoin? André, vous n'êtes pas convaincu comme moi. Est-ce que c'est le livre vraiment qui répond à notre besoin actuel? Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Est-ce que tu penses que tu fais partie des ruines de Jérusalem présentement? Des ruines du Cap? Et que tu dois te lever, dois être un ennemi pour pouvoir bâtir les ruines. Chacun de nous doit être un ennemi au Cap de la Madeleine pour bâtir les ruines. Personne ne va s'asseoir pour attendre les autres faire. Quand la première vague est venue, ils n'ont pas travaillé, ils ont été négligents. La deuxième vague a été négligente. Le travail n'a pas avancé. Il a fallu que Néhémie vienne pour faire tout le travail qui devait se faire dans un espace de 90 ans. Néhémie l'a fait en 52 jours. Est-ce que je me trompe? L'œuvre a été bâtie. Alors, voilà pourquoi nous devons enseigner. Et nous voulons enseigner sur le livre de Néhémie pour chacun de nous, qu'on puisse se lever pour travailler. Il me reste combien de minutes présentement? Mon temps est fini? Bon, on arrête ça ici. Je vais aller vite, si vous me donnez 5 minutes, ça peut aller? Parce que c'est important, mes frères et sœurs vont venir, mes frères vont venir bâtir sur ces fondements-là. Mais Stéphane, je vous enverrai mes notes aussi, si vous voulez. Yes. Alors, donc, on va aller plus vite. Hop. Voilà. Le livre de Néhémie se divise en deux. De chapitre 1 à chapitre 7. On voit, de verset 1 à 4, on va voir ce qui se passe, la mauvaise nouvelle, la prière. Et Néhémie obtient le congé, verset chapitre 2. Et verset 1 à 10, on voit tout cela. Et Néhémie à Jérusalem, la reconstruction des murailles, de chapitre 3, verset 1 à 6. Et le dénombrement, la déportation est venue. Et la venue de Jérusalem. Et le retour, pardon, qu'est-ce que j'avais dit? Le dénombrement des retours de Zorobabel plutôt. Et la deuxième partie, c'est ceci, le réveil spirituel. La récupération, le repeuplement de Jérusalem, la consécration des murailles, la réforme et contre les abus. Alors, donc, les applications qu'on a ce matin dans ça, on peut voir ça. Si je veux bâtir l'œuvre de Dieu au cap de la Madeleine, nous devons avoir un fardeau pour l'œuvre de Dieu ici. Nous devons avoir un fardeau pour le peuple de Dieu au cap de la Madeleine. Si tu n'as pas le fardeau pour le peuple de Dieu au cap de la Madeleine, je pense que tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Tu vas être découragé. Être toujours prêt à agir de façon, mais toujours être toujours prêt à agir, mais en commençant toujours par la prière et le jeûne. La parole de Dieu nous interpelle. Néhémie a prié, il a jeûné, il a pleuré pour cela. Et savoir encourager ceux qui sont découragés. On a beaucoup de frères et sœurs qui sont découragés. Nous devons être là pour les encourager. Néhémie, quand il est arrivé à Jérusalem, les gens étaient à terre. Mais il les a encouragés et dit, Dieu, la main de Dieu était avec moi. Il a témoigné des bontés de Dieu. Il les a relevés. Et en conclusion, si nous voulons bâtir l'œuvre de Dieu au Cap, voilà les 5 ingrédients qu'il faut avoir. La prière, l'organisation, encouragement, persévérance et placer la parole de Dieu à la place qu'il faut si on veut bâtir l'œuvre de Dieu au Cap de la Madeleine. Dans tout cela, nous disons qu'on peut tout faire. Mais Psaume 127 nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent font quoi? Travaillent en vain. Alors, donc voilà ce que je termine avec ça. Un volontaire peut le lire rapidement pour moi, s'il vous plaît. Amen. J'ai mal écrit là. Amen. Excusez-moi, il n'y a pas de E à la fin là. Excusez. Hein? Ok, continue. Hein? Amen. Lèvons-nous et bâtissons l'œuvre de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons bâtir ton œuvre au Cap de la Madeleine. J'avais un chant pour toi, mais ce temps est passé. Non, pas, j'ai abusé du temps de mes frères et sœurs. Je t'en demande pardon pour cela. Ce matin, Seigneur, aide-nous à bâtir ton œuvre au Cap de la Madeleine. Les forces et les santé qu'on a besoin. Seigneur, tout ce que nous avons dit, nous ne pourrons pas réussir si toi tu n'es pas avec nous. Nous ne pourrons pas réussir si toi tu n'es pas devant. Nous ne pourrons pas réussir, Seigneur, si toi tu ne nous entoures pas de tes bras. Seigneur, donne-nous la force pour pouvoir réussir cette œuvre au Cap de la Madeleine. C'est ta gloire qui est en question. C'est ton nom qui est en question. Seigneur, c'est les âmes que tu as rachetées qui sont en question. Je te prie ce matin, bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci pour votre écoute. Excusez-moi encore, vraiment. Je demande pardon.